C'est un détecteur de colère.
Quand qu'on fait un apéro avec les auditeurs?
Moi, je serais bien.
Boire avec des gens beaux et gentils.
Février, mars. Est-ce qu'on ferait pas un splendide?
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est
cool.
C'est un détecteur de conneries.
Qui pour ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Ce qu'il dit!
Vulgaire? Je trouve ça vulgaire?
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. À commencer par Ichouchou, le Ichouchou
bonjour.
National. Bonjour Camille.
Hello.
Et nous avons un invité. Très content de le revoir.
Oui.
Parce que ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu, ça fait plaisir. Et c'est Axel.
Eh bien, bonjour à tous, je suis très content d'être là, j'ai l'impression d'être un peu votre excuse vieillard. Hein
non, si. Non, la caution vieillard.
C'est le quota. C'est, je suis le quota, d'accord.
C'est ça, on arrivait à la fin de l'année, on n'avait pas bouclé.
C'est la discrimination positive, c'est ça?
Exactement, ouais. Mais ça nous fait plaisir, voilà. Tu n'es pas qu'un chiffre, tu es plusieurs chiffres déjà. Non, mais ça me fait très plaisir de te voir. Pardon. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, on t'avait eu dans l'épisode de la saison...
Quelque chose.
4,
pas, oui.
Je crois. Mais voilà, et tu nous avais parlé du cornhole.
Ouais, oui, bah, écoute, il se porte bien le cornhole, ça continue. Donc, on organise bientôt une Coupe des Nations. On a fait des clubs. Donc, ceux qui sont en région parisienne, on joue à Marolles en Urpois. Oui, ça existe.
Ouais, c'est vrai.
Le samedi entre 11h et 13h. Donc, si vous voulez jouer, vous initiez, n'hésitez pas. Et réservez vos places maintenant, parce que je suis sûr que d'ici peu, il n'y aura plus aucune place et vous serez obligé d'être sur liste d'attente avant de pouvoir jouer au cornhole.
De créer des nouveaux clubs dans la fédération.
Oui, c'est
Très classe. Mais j'ai hâte de voir ça. Je pense
pourquoi le Pardon Maman Cornhole Club, tu vois,
oui.
Ouais. Ouais, on pas. Voilà. Ou une compétition parrainée par Pardon Maman ou
alors,
sponsorisée par Pardon Maman.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de thunes. Hein.
Par contre,
le
cornhole peut... sponsorisé par nos mamans,
oui.
Où on peut venir tenir le vestiaire.
D'accord, et bien écoute, on essaiera de mélanger tout ça et on verra au moment où on l'organisera lequel a le plus de pognon et c'est lui qui paiera.
Ça marche.
Ça vous va.
On est plutôt tranquille, je pense. Hein. Je suis pas inquiet. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir autour de cette table, autour de ces micros. Voilà, un des derniers épisodes de l'année, mais pas demain en fait. Ça fait très plaisir, c'est très chouette. J'en profite. Ah, tiens, tant que j'y pense, parce que ça fait plein de fois que j'oublie de le dire à la fin. Ça nous fait toujours trop plaisir vos messages et.
Tellement.
Et n'oubliez pas de nous laisser des petits commentaires sur Apple Podcast ou sur la plateforme que j'utilisais.
Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait cette annonce.
Ben oui, c'est pour ça. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Donc voilà, là, vous qui nous écoutez, même si vous n'utilisez pas un iPhone, vous pouvez aller sur Apple Podcast et nous envoyer un message, certainement plein d'amour.
Si c'est un commentaire méchant, on lit tout, non?
Voilà, et si vous avez un RIB, un Western Union. Non, mais en tout cas, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, parfois, on a un petit peu de retard. On a un peu plus de retard qu'avant sur les messages, mais ça nous fait toujours plaisir, vos commentaires, vos messages, donc voilà. Pour ne pas oublier, cette fois-ci, je voulais le faire, comme ça, c'est fait. Et vous savez qu'on vous aime et que ça nous fait toujours très plaisir.
C'est vrai qu'on vous aime.
Merci beaucoup. Alors maintenant, est-ce qu'on ne passerait pas au vif du sujet, un peu vif des sujets?
Oui.
Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer avec Camille.
Oui, tout à fait. Et moi, il y a quelques semaines, un auditeur a dit « Ouais, ce serait bien que vous fassiez un... » Enfin, il ne l'a pas dit comme ça. « Ouais, ce serait bien que vous fassiez un sujet sur Richelieu. »
Et voilà.
Yes. Et j'ai dit « Ok. »
Voilà, donc quand vous vous demandez comment on a l'idée pour les sujets, comme ça, globalement.
Exactement.
Trop bien. Et après, ça sera à Axel.
Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un trouble. Un trouble qui me donne... qui donne la chance aux gens qui l'ont d'avoir un point commun entre eux et le poisson rouge.
Ah,
oh,
quel est ce trouble?
Mais quelle introduction.
Teasing. Alors, je vais vous parler tout à l'heure du TDAH. Alors, c'est un truc, c'est un trouble psychiatrique, mais pas d'affolement, tout va bien. Si vous en avez, eh bien, soyez fiers. Et donc, je vous donnerai pas mal de détails tout à l'heure.
Ah, est-ce que tu peux juste donner l'acronyme pour que les gens sachent?
Alors, TDAH, c'est un trouble dysfonctionnel de l'attention et le H est pour hyperactivité. Alors, on dit TDA. Sans hyperactivité ou avec hyperactivité. Dans l'hyperactivité, ça peut être une hyperactivité cérébrale ou une hyperactivité physique.
Ou les deux, non?
Ou les deux, et aussi en évoluant, enfin en grandissant, l'hyperactivité physique se transforme généralement aussi, aggrave l'hyperactivité cérébrale, puisqu'on est contenu dans les codes sociaux que nous vivons, dans nos métiers, etc., et qu'on peut plus... Bon, si vous avez un collègue de travail qui, à 45 ans, se met à passer sous la table en pleine réunion, sauter d'une chaise à l'autre, etc., et crie « Youpi » toutes les deux minutes, vous allez vous dire qu'a priori, le trouble qu'il a, c'est beaucoup plus grave. Et vous appelez des gens qui vont lui mettre une grande chemise blanche avec des manches très très longues et vous n'allez plus le revoir avant très longtemps. Donc tout ceci est contenu et effectivement, voilà, ça donne néanmoins, on va en parler d'une manière légère et d'une manière aussi un peu grave, puisque ce TDAH est pour certains une chance, mais c'est pour une toute petite tranche de la population et aussi beaucoup de souffrance pour une autre tranche et puis des gens au milieu qui vivent avec en le sachant ou sans le savoir et qui souffrent, qui ont des difficultés dans la vie quotidienne. Et voilà, peut-être que si aujourd'hui, avec Pardon Maman, on arrive à relever chez une personne, ces deux personnes qui disent eh, « c'est peut-être moi, c'est peut-être ça qui va m'apporter des réponses », eh ben on en sera super content, j'en serai super content.
Exactement,
et on aura aussi servi à quelque chose.
Exactement, on va transmettre le message. Merci beaucoup, en tout cas.
J'ai sympa ton sujet, Axel. C'était top.
Très, très, très concis, très percutant, on aime beaucoup. Bon, et en troisième sujet aujourd'hui, pour cet épisode, ce sera...
C'est moi qui termine. Je vais faire comme les deux derniers sujets, c'est-à-dire que ça va être le même sujet, mais qui sera divisé en deux, parce que personne ne s'est plaint sur le réseau.
Donc, oui, pour l'instant, c'est vrai.
Vas-y, pourquoi pas.
On ne sait pas s'il y a des gens qui ont écouté déjà,
Moi, j'ai écouté.
Ma maman a écouté.
Voilà. Et toi, tu t'es pas plaint?
Non.
Bon, c'était
non,
bien.
J'en ai même redemandé une autre. Du coup, je vais faire un sujet en deux parties. Je vais vous parler donc d'un sujet que j'aurais adoré faire en live, mais vu la situation,
j'aurais adoré vivre.
Pas sûr qu'on puisse le faire, donc j'assure, je le fais tout de suite. Il y aura de la politique, des avions, de la mauvaise planification, des retournements de situation, bref, un sujet affaire sensible.
Des tonneaux, des... Ouais. Ok, et du coup, est-ce que tu es un peu plus à nous dire quel est le nom du sujet? Et
si je vous dis Yodo? Ça vous dit quelque chose?
Yodo.
Yodo.
Yodo, c'est...
Yodo.
Yodo,
Maître Yodo?
Non.
Non.
Eh bien, vous allez voir.
Ok, ça marche. Beaucoup de mystères aujourd'hui. Je vous propose de commencer maintenant avec le sujet de Camille.
Un pour tous,
tous pour un!
Mais là, c'est la semaine du chat, c'est moi qui décide!
Ça vient du ministre lui-même.
N'empêche que je suis une légende.
Toujours une grosse prédominance de Kaamelott.
Oui, tout à fait, mais c'est...
C'est notre seule source de vrai audio qui vient du passé. Hein. C'est...
Oui, absolument. Et puis, je suis une très grande fan de Kaamelott, donc moi, je ne me lasse pas.
Oui, non, mais...
Je ris éternellement, comme ça, aux blagues de Kaamelott.
Fort bien, tu as bien raison.
Alors, donc, aujourd'hui, je vais donc vous parler de Richelieu. Si je vous dis Richelieu, vous pensez à quoi?
Parce que Cardinal.
Ouais, cardinal.
Métro.
Métro, oui.
Chaussures.
Chaussures, oui. Exactement, les super mots que j'attendais pas.
Là, tu veux notre référence.
Donc, cardinal, oui. Chaussures, alors justement, je me suis renseignée en me disant, est-ce qu'il y a un rapport avec la chaussure? Non, il n'y en a pas. Voilà, donc ça clôture déjà le sujet de la chaussure.
Et est-ce que les chaussures...
Et c'est tout pour moi, 25 secondes!
Allez! Bah, tu verras, c'est pas tout le temps bien de se vanter de 25 secondes. Pardon.
Je pensais que vous alliez aussi peut-être me dire Trois Mousquetaires, hein, parce que c'est quand même le méchant principal des Trois Mousquetaires, mais peut-être vous ne l'avez pas lu.
Non, jamais de la vie, 4000 pages.
Non, mais c'est vachement bien.
Oui, mais c'est pas la question, ouais, quand même 4000 pages.
En tout cas, on le connaît tous de nom, le cardinal de Richelieu. Non, ou alors Albert, le cinquième mousquetaire.
Oui, mais vas-y, continue, là, c'est
non, mais
Richelieu.
Je sais pas, non, mais oui, non, mais il se passe quand même plein de choses. Et donc, Richelieu, ça a été un des plus grands ministres français, en tout cas un des plus connus. Et on l'associe souvent à un imaginaire de personnage hyper fourbe, hyper méchant et hyper tyrannique, alors qu'en réalité, c'est un personnage beaucoup plus nuancé que ça. Donc c'est un homme qui vient d'une famille de noblesse assez moyenne, qui naît en 1585, et c'est une petite famille de noblesse de province. Il n'est pas l'aîné, alors il s'appelle Armand Duplessis d'ailleurs, il ne s'appelle pas du tout Richelieu de nom de naissance. Il n'est pas l'aîné, il est parmi les derniers nés, donc il n'a pas possibilité de faire une grande carrière.
Ah oui, parce qu'à l'époque c'était genre l'aîné reprenait l'affaire de la famille, etc.
C'est ça, le deuxième faisait la grande carrière ecclésiastique, et puis les autres partaient faire des carrières ecclésiastiques plus modernes ou prenaient les armes.
Modeste.
Donc lui, il s'est dit, moi l'armée ça me botte plutôt bien. Donc en fait, il va être envoyé pour faire une carrière militaire, donc il va dans une école équestre. Mais quand il est adolescent, après plusieurs années de formation, son frère, qui était juste au-dessus de lui, qui lui devait représenter la famille d'un point de vue ecclésiastique, dit, moi le problème les gars, c'est que j'ai une vraie vocation quoi.
Les chevaux.
Non, j'ai une vraie vocation divine. Et donc du coup, en fait, être évêque, archevêque, moi ça me va pas, moi je voudrais être moine. Ah. Moine, quoi. Aller vivre dans une chartreuse, okay, m'enfermer, prier, quoi.
Parce qu'évêque, archevêque, t'as le côté politique, alors que moine, t'as le côté creuser des patates. Et,
archevêque, t'es Beyoncé des évêques, tu vois. Enfin, t'es. Voilà. Et lui, il voulait être moine. Et le problème, c'est que la famille, de génération en génération, se transmettait un évêché. Donc, un évêché, avoir un évêque dans la famille, ça rapporte de l'argent. Mmh. Et là, il y avait le risque qu'on perde cet évêché si personne dans la famille reprenait, devenait évêque. Donc, c'était l'évêché de Luçon, en l'occurrence. Donc, notre Armand Duplessis va dire, bon, bah, ok, je vais pas être militaire, je vais être évêque. Enfin, je veux dire, c'est un métier comme un autre. Hein,
oui, voilà.
Je crois un peu en Dieu, pas de problème.
Bah, je croyais en général, maintenant je crois en Dieu. Bon.
Ouais, c'est pareil. Hein, c'est... Et donc, non, mais en fait, il faut vraiment voir les grandes fonctions ecclésiastiques d'avant la Révolution française comme des métiers. Mmh. La foi est un plus. Si tu crois, c'est bien, mais c'est avant tout un métier. Donc, notre Armand Duplessis, bah, il devient évêque de Luçon, et c'est un petit évêché. D'ailleurs, il va un peu tricher pour devenir évêque parce qu'il faut avoir 26 ans à cette époque pour devenir évêque. Lui, il en a 21, mais il va faire un faux acte de naissance, il bidouille.
Nickel.
Il va
sous-signer.
Il va voir le pape pour se faire ordonner évêque et il va lui donner son faux truc. Et puis au final,
ça commence pas bien niveau foi. Hein.
Non, il va finir par dire au pape que c'est un faux et puis le pape lui a dit vous ferez un grand évêque et voilà, c'est assez rigolo. Hein,
c'est ce que dit la légende.
Et donc, il part dans son petit évêché à Luçon. Alors, c'est un bon évêque. Hein. Il a la foi, il est aimé de ses paroissiens. Mais qu'est-ce qui se fait chier à Luçon? Alors, moi, je vous avoue que je ne sais même pas situer Luçon sur une carte. Hein, donc,
ça me dit quelque chose, pourtant.
Donc, il s'ennuie à Luçon. Il s'ennuie. Il appelle ça son évêché crotté parce que...
donc, il kiffe la région, quoi.
Ouais, vraiment. On est sur un bon gros bail de kiff. Donc...
Attends, tu fais une pause de 5 minutes. Il y a Hicham qui cherche Luçon.
Non, tu peux continuer.
L-U-C-C-D-O-N. Donc, il a quand même des ambitions, ce petit Armand Duplessis, et il va devenir, il va se rapprocher d'un homme qui est très aimé, qui est assez connu à la cour, qui s'appelle le Père Joseph. Le fameux Père Jojo. Et le Père Joseph, il est assez proche de la reine-mère. Donc, à cette époque-là, on est au début du règne de Louis XIII, donc Louis XIII, le père de Louis XIV, pour un petit peu vous resituer. Et Louis XIII, il est encore mineur, donc c'est sa mère, la veuve d'Henri IV, qui exactement règne sur le royaume de France, Marie de Médicis. Et Marie de Médicis, depuis l'assassinat de son mari, elle a découvert le pouvoir et elle est sur l'autoroute du kiff.
C'est,
je veux dire, elle a récupéré les rênes de la France et elle est wouhou, et elle veut pas du tout lâcher les rênes à son fils. Et donc, elle est toute puissante et on va le présenter à la reine-mère. Puis, elle va effectivement le remarquer. Il y a des états généraux, lui, il est député. Enfin, elle va le remarquer. Et donc, assez rapidement, il devient le protégé de la reine-mère. À cette époque-là, la situation entre la reine et le jeune roi Louis XIII, il est hyper tendu parce qu'elle veut pas du tout... Elle prépare pas son fils à devenir roi et elle veut absolument pas lui lâcher du pouvoir. Donc, notre Richelieu, en tant qu'évêque de Luçon, il va atteindre assez vite des sommets politiques dans l'entourage de la reine. Mais il y a des périodes où le roi va mettre sa mère en disgrâce, va l'éloigner de la cour pour essayer de récupérer un peu le pouvoir. Et donc, l'évêque de Luçon part en disgrâce avec la reine-mère. Ouais.
Parce qu'il est pote avec la reine et pas avec le Louis XIII.
Exactement. Mmh. Et en fait, un jour, il va y avoir des ministres qui vont décéder, qui vont se faire exécuter, etc. Il y a des complots. Et donc, il va y avoir des places à prendre. Louis XIII se retrouve un petit peu isolé, donc il va rappeler sa mère au pouvoir. Donc, notre évêque de Luçon revient aussi. Mmh. Et Louis XIII va apprendre un petit peu à le connaître et il va réaliser que...
Vachement cool. C'est un bon gars.
Qu'il pèse un petit peu dans le game quand même. Et donc, il va devenir ministre principal des ministres de Louis XIII. Donc, c'est l'équivalent vraiment de Premier ministre en 1624. Et assez rapidement, Louis XIII va lui donner le titre de duc de Richelieu.
Ok.
Voilà, ce qui est pas mal. Hein. Duc, c'est un des meilleurs titres dont on puisse rêver à cette époque. Le binôme va hyper bien fonctionné parce que Louis XIII, c'est un roi assez spécial. Le père de Louis XIV, c'est un type qui a de la majesté, qui a de la classe, mais qui est bègue, qui est assez timide, en tout cas qui n'est pas du tout à l'aise.
Il a la classe quand il parle pas.
En public. Il est un bon roi, il a des bonnes idées, mais il sait pas du tout les organiser. Mmh. C'est complètement le fouillis dans sa tête. Et il est très caractériel. Il change d'idée, d'avis très facilement. Alors que Richelieu, c'est un excellent orateur, c'est un type qui est extrêmement organisé dans sa façon de penser et dans sa façon de parler. Donc en fait, il y a un win-win entre les deux qui est top et il y a un super binôme qui va se créer. Donc, notre Richelieu, il va assez rapidement dire à Louis XIII, bah, écoute, voilà, moi, je te présente un petit peu mon programme, quoi, en tant que ministre principal. Le point A, c'est niquer les protestants. parce qu'ils sont nombreux en France.
Alors, je te cache pas que c'est le pape qui m'a soufflé cette idée, mais je la trouve plutôt bien.
Mais en fait, c'est pas ça. Alors, Richelieu, il a rien contre la liberté de culte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est juste qu'à cette époque-là, les protestants, il y a des groupes de protestants qui vont se former, qui vont carrément s'installer dans des cités comme La Rochelle, par exemple, et vont faire des mini-états qui n'obéissent plus au roi.
Okay.
Donc ben, ça pose problème en fait à Richelieu qui du coup va réagir, va riposter de façon assez
Mais en plus,
assez vénère,
que Luçon, j'ai vu sur la carte de Richelieu que c'était plutôt côte ouest, donc pas très loin de La Rochelle.
C'est juste à côté.
Ben voilà, donc peut-être pour ça qu'il s'est dit ah ça me met en danger, donc vas-y on va les bouter.
Oui, puis il a grandi en plein milieu des guerres de religion aussi, Richelieu. Donc, enfin, c'est quand même une période où souvent t'as un avis assez tranché sur la question, soit d'un côté, soit de l'autre.
Il a fait armée plus religion, donc la guerre de religion, c'est un peu son domaine, quoi. Enfin...
Oui, totalement. Oui, et donc du coup, il va jamais faire de loi pour empêcher les protestants de pratiquer leur culte, etc. Ça, c'est Louis XIV hein, qui arrivera à ce point-là. Mais par contre, par exemple, La Rochelle, il va faire un siège qui va durer un an. Parce que Richelieu, c'est également un chef de guerre.
Il ne va pas faire de loi, mais bon, bah.
Oui, c'est oui, par contre, il dépote. Mais lui, ce qu'il veut, c'est vraiment casser la toute-puissance des protestants. Que les protestants, ils prient ce qu'ils veulent, mais par contre, il y a un seul roi qui décide en France, c'est Louis XIII. Donc ça, c'est le projet numéro un. Le deuxième projet, c'est de niquer un peu la famille de Habsbourg. Qui a tout pouvoir en Europe, qui du coup est une famille hyper menaçante.
C'est les Autrichiens.
Alors, c'est les Autrichiens et les Espagnols, pour vous donner un exemple. La mère de Louis XIII, Marie de Médicis, dont on a parlé, par sa mère, elle est autrichienne, donc elle est un peu Habsbourg. Mm-hmm. Et la femme de Louis XIII, Anne d'Autriche, elle est espagnole. Ah non, mais elle est espagnole, mais elle est également Habsbourg, parce qu'il y avait les Habsbourg d'Autriche et les Habsbourg d'Espagne qui sont cousins éloignés.
D'accord.
Et donc, du coup, lui, ce qu'il veut, c'est casser un petit peu les Habsbourg, leur mettre quelques pétés au niveau des guerres extérieures en dehors de la France, pour arrêter d'en faire une grosse puissance. Alors, très vite, il va se mettre les deux reines à dos, du coup, parce qu'elles disent oh, mon frère Boris, ça te touche pas, quoi. Et enfin, dernier projet, niquer les nobles. Bon, vous l'avez compris, Richelieu, il va un peu niquer tout le monde, quoi.
Oui, parce que tu disais qu'il est un peu tranquille, bon.
Un peu belliqueux quand même.
On a vu plutôt.
Je sais pas si c'est le mot approprié pour parler d'un religieux.
Mais après, niquer les nobles, si je peux me permettre, c'est assez novateur. Parce que même encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de programmes politiques qui incluent ça.
De niquer les nobles ?
Ouais.
Ouais, c'est clair.
Mais
en fait, ce qui se passe en gros, c'est que Louis XIII est marié depuis un certain temps à ce moment-là, parce qu'il a été marié très très jeune, mais Louis XIII n'a pas d'enfant. Et ça fait plus de 10 ans qu'il essaye d'en avoir et qu'avec sa femme, il n'y arrive pas.
Ouais, j'ai plein d'idées sur pourquoi ça marchait pas, mais bon, je vais plus les énoncer ici.
Et on est convaincu qu'il n'y aura pas d'enfant du couple royal. Louis XIV, donc, qui est leur premier fils, est né, mais il est né au bout. Ça faisait quasiment 20 ans qu'ils essayaient d'avoir un enfant quand d'Autriche est tombée enceinte. Et il s'appelle d'ailleurs Louis Dieudonné, tu vois. Enfin, on n'y croyait vraiment plus, quoi.
Parce qu'il avait un humour assez particulier.
Enfin,
je me comprends.
Et donc, on t'a compris. Et donc, en fait, le frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans, bah, il est pas con. Il se dit, à la mort de mon frère. En plus, tu sais, il était un peu chétif, Louis XIII. Il toussait beaucoup. Et Gaston, le moindre rhume qui passait, il attendait. Il était dans les couloirs du Louvre. Il était, tu tousses encore, frérot. Non, il fait un peu frais, mais ça va te faire du bien de prendre l'air.
Fais un footing le matin, voilà. Il gèle, bon.
Tiens, on va à la chasse. Débardeur. Février, débardeur. Top. Et donc, non, Gaston, il attend. Et beaucoup de personnes parmi la haute aristocratie savent qu'effectivement Louis XIII il va pas vivre très vieux, que Gaston va devenir le futur roi. Donc en fait on se range du côté de Gaston. Et on a ce Richelieu qui lui vraiment veut défendre le roi, c'est un fervent monarchiste Richelieu, hein. Et qui va vouloir casser un petit peu tous ces complotistes en gros, contre le roi. Donc en fait, bah, il va se mettre toute cette noblesse à dos, tous les gens qui sont autour du frère de Louis XIII. Donc c'est pas un personnage qui est excessivement aimé. La grande journée du règne de Richelieu, qu'on n'étudie plus à l'école, mais qui était étudiée, je pense, à d'autres générations, c'est la journée des dupes. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler de ça de nom.
Pas plus que ça.
Ah, en gros, en 1630, la reine mère et Richelieu peuvent vraiment pas se piffrer, quoi. Richelieu a encore mis une pâtée aux Habsbourg, donc la reine mère, elle en peut plus. En plus, les Habsbourg, ils sont hyper catholiques, donc la reine mère, elle voit ça en mode « Ah, il se range du côté des protestants alors qu'il est cardinal, c'est abusé. » Enfin, voilà. Elle est un petit peu...
Elle est pas contente, hein.
Ah non, du tout. Elle est très en colère. Donc du coup, Louis XIII se dit « On peut pas rester dans cette situation un petit peu naze entre ma mère et mon ministre principal qui se parle plus. » Donc il fait une petite réunion pour apaiser un peu les tensions, où il invite le garde des Sceaux, sa mère, Richelieu, et donc lui-même. Et la reine-mère pète une durite à la fin du conseil. Elle insulte Richelieu et elle traite toute sa famille. On a les témoignages de ça. Donc elle traite sa tante, sa nièce.
Deux fils de dupe.
On avait dit pas les mamans, quoi, et tu vois, c'est parti, quoi. Et à tel point que Louis XIII, il dit tu dérailles, tu sors un petit peu de tes gonds, là.
Tout calme.
C'est un petit peu chaud. Donc en fait, il va mettre un petit terme à la réunion. Et. Il décide d'aller voir sa mère le lendemain, et il va voir sa mère, tu sais, pour régler ses comptes, en disant « Attends, tu parles pas comme ça, mon Premier ministre, ça va pas être possible. » Et Richelieu s'est incrusté, en passant par les petites portes dérobées, il s'est incrusté à la réunion. Alors, Louis XIII a trouvé que c'était un petit peu audacieux et pas très sympa, donc Louis XIII l'a viré. Comme ça. Donc là, Richelieu est parti chez lui pour faire ses valises et se
dire... Ah oui, il a viré du gouvernement, pas de la réunion, quoi.
Oui, t'es plus ministre de la France, quoi, c'est fini. Donc Louis XIII va boire une bière avec un pote après ça, puis son pote lui dit « Mais quand même, t'es sérieux, t'as viré Richelieu ?» C'est chaud quand même, enfin là, c'était le type qui t'appuyait, quoi. Donc Louis XIII, du coup, il venait de se faire construire un petit pavillon de chasse dans l'ouest de la banlieue parisienne qu'on appelle Versailles. Il va à son petit pavillon de chasse, et il réfléchit un peu, et puis il fait appeler Richelieu. Donc Richelieu se dit « Purée, ça y est, je reçois ma lettre de licenciement, putain !» Le seum, il monte dans le carrosse, il y va, puis là, Louis XIII lui dit «
Bon,
allez. »
Non,
Louis XIII lui dit « Allez. Je te garde, je t'en supplie, reste. » D'où le nom de Journée des Dupes, en fait, parce que ça a été... Et ça montre bien le caractère...
C'est un vaudeville politique, quoi.
Totalement, et puis ça montre bien le caractère de Louis XIII, qui était un roi, et Richelieu, il a su rester 20 ans au pouvoir avec un roi comme ça, qui, tu vois, qui changeait tout le temps.
Des petites gauches-droites.
Exactement. Et donc, Richelieu garde sa place au grand dam de la reine-mère, mais qui n'aura plus jamais vraiment de pouvoir suite à cette histoire et qui va être profondément humilié. Et donc Richelieu, en fait, il va avoir un règne assez brillant, mais c'est vraiment une main de fer. La moindre personne qui va comploter contre lui ou contre Louis XIII, parce qu'il va toujours défendre l'intérêt du roi. Il a compris, en fait, qu'ils avaient vraiment un win-win, tous les deux, à avoir.
Quand t'es le meilleur pote du roi, oui, t'intéresse que le roi
on ne sait pas du tout s'ils s'appréciaient, mais ils avaient totalement compris l'un et l'autre qu'ils avaient un énorme intérêt à faire un binôme, en tout cas. Mais rien de dit, ça se trouve, ils ne pouvaient pas spécialement
se piffrer. Oui, quand j'ai le meilleur pote, c'est qu'ils se protégeaient l'un l'autre.
Donc exactement. Ils avaient vraiment un intérêt mutuel. Et donc, il va faire beaucoup de guerres contre les Habsbourg. Donc, il est aussi très impopulaire parce que une guerre, ça se finance. Donc, il faut lever énormément d'impôts. Là où il va être novateur, c'est qu'il va lever des impôts, certes, contre les pauvres. Donc, il va y avoir des révoltes, des croquants, notamment. Vous avez peut-être déjà entendu parler.
C'est lui qui a créé le concept alors de... Des impôts contre les pauvres ?
Non, pas spécialement. Non.
Ça se faisait avant.
Clairement, on l'a pas attendu. Mais par contre, il va
ça
également.
C'est toujours d'ailleurs.
Il va également lever.
Je crois.
J'ai entendu dire.
Ouais.
Il va également lever des impôts contre le haut clergé. Et ça, c'était assez novateur. Donc, il va se mettre tout le haut clergé à dos. Il va également être un grand mécène. Par exemple, il aime beaucoup les arts, notamment la littérature. C'est lui qui va créer l'Académie française en 1635, je crois. Ça va être un assez grand bâtisseur. Tout ce que vous voyez aujourd'hui de la Sorbonne actuelle au centre de Paris, c'est fait par Richelieu. Et si je ne m'abuse, il est même enterré là-bas. Le tombeau de Richelieu est à la Sorbonne, je crois.
Je demande à Hicham.
Je sors l'iPad.
Il va bâtir, si vous connaissez le Palais Royal à Paris, et bien en fait, c'était sa résidence. Ça s'appelait à l'époque le Palais Cardinal et il l'a construit juste à côté du Louvre
pour rester collé
au roi. Exactement.
Ah bah, il s'est fait plaisir.
Et il va bâtir une ville entière, une ville idéale, très géométrique, la ville de Richelieu. Donc, si vous regardez les plans, c'est une ville qui existe encore. Elle est très étonnante.
Je crois. C'est pas à côté de Angoulême.
Je n'ai aucune idée d'où ça se situe.
D'accord.
Hicham. Mais tout est. En fait, il s'est basé sur des plans de cités idéales grecques et romaines, et donc tout est très rectangulaire, très très géométrique, et donc il s'est bâti sa ville parfaite. Donc c'est quand même
un mec plutôt ambitieux quand même.
Oui, c'est un type qui est hyper ambitieux. Il va également fonder c'est lui qui va créer la presse française, étant donné que le premier journal français va être créé sur son initiative, ça s'appelait La Gazette. Après, comme c'est lui qui l'a créé, il va un petit peu décider de ce qu'on met dedans.
Oui, ça aussi, ça s'est gardé.
Oui,
ça.
Voilà. Je vous confirme.
Hein, faut pas déconner. Mais donc voilà, un personnage pas spécialement cool, mais qui a fait quand même pas mal de choses. C'est également un type qui adore les chats, qui va probablement être oui, la personne qui va faire, ouais, qui va faire que les chats deviennent des animaux de compagnie.
Les Égyptiens.
Non.
Oh, c'était un peu plus tôt.
Il avait une chatterie au Palais Cardinal, et à sa mort, il avait 14 chats qu'il va coucher dans son testament.
Ah, je crois qu'il couchait dans son lit. Ouais.
Non. Et parce que, en fait, l'État français va devoir leur donner un rang et de la thunasse à sa mort. Et donc, du coup, on connaît le nom grâce au testament de Richelieu, on connaît le nom de ses chats. Et ils ont des noms de chevaux de course, justement, moi je trouve. Bon, après, il y a Gazette, Soumise, Lucifer, Ludovic le Cruel, Perruque, Ruby sur l'ongle, Mimi Paillon, Mounard le Fougueux. Voilà,
Ludovic le Cruel. Est-ce qu'il l'a nommé alors qu'il était chaton ou il a attendu qu'il soit cruel avant de dire toi ?
Mais c'est pas Karl Lagerfeld qui avait aussi mis ses chats dans.
Oui,
dans
oui. Si, c'est vrai.
Elle a un nom, c'est la chatte de Karl Lagerfeld. Donc sa chatte, elle avait un nom. Elle est connue.
Ouais, mais c'est un truc genre Mimine Pupus ou j'ai plus un truc à la con.
Mais oui, elle a hérité de tout.
Ouais. Oui, exact.
Elle est morte.
Je sais pas. Est-ce
tu cherches
couché...
à te marier
Non.
Tu ne peux pas. Ce n'est pas admis.
Alors, je me suis accroché à un truc là. J'attends des nouvelles de Gaston à la fin de l'histoire.
Gaston d'Orléans, mais n'aura jamais le pouvoir parce que Louis XIV.
Ah bah oui, parce qu'il a survécu.
Donc lui, il est où là, à ce moment-là ?
Gaston ?
Oui.
Bah il a le seum, il ronge son frein. Il est un petit peu dégoûté parce qu'en fait, lui, il va avoir échec en échec. Et puis quand le jeune roi Louis XIV va prendre le pouvoir, etc., Gaston, il va être exilé dans les châteaux de la Loire, c'est terminé.
D'échec en échec ou de gaffe en gaffe ?
Oh, Gaston !
Mais non, il a une fin de vie assez pitoyable, Gaston. Mais c'est toujours terrible d'être le frère cadet du roi, en fait. Hein. C'est une vie où tu
c'est terrible comme quand t'es riche, mais
il y a beaucoup d'exemples de frères cadets du roi où ils sont devenus soit des gros complotistes, soit des mecs un peu fous. Mais tu sais, on raconte que c'est pour ça que le frère cadet de Louis XIV, leur mère, l'a vachement efféminé et l'a élevé qu'avec des filles.
Ah, pour qu'il ne soit pas vu comme un danger.
Mais pour qu'il ne soit pas comme son oncle Gaston. En fait, pour que ce soit pas un type qui complote toujours prêt à dire t'as toussé là, t'as toussé. Je te jure, t'as toussé.
Quand tu me dis Gaston, je pense au Gaston de La Belle et la Bête.
Mais pareil, moi je l'imagine.
Moi, Gaston et gaffe. Donc on n'a pas la même culture. En tout cas, le truc assez incroyable, c'est que Camille, elle nous raconte ça d'une manière totalement passionnée. Avec au niveau des notes, elle a trois lignes elle nous dit des trucs. C'est totalement hallucinant. Moi, je prépare mon sujet et j'ai a priori envahi tout le tapis, toute la table avec des trucs partout.
Il y a au moins 15 feuilles par terre.
Voilà.
Ah oui, j'avais pas vu la vache.
Et Hicham, il a son iPad 128 gigaoctets pour pouvoir.
Je pensais que j'avais une deuxième. Je pensais que j'avais une deuxième PS5, mais non, en fait, c'est les notes de.
Alors, du coup, pour conclure, Richelieu va finir par mourir quand même en 1642.
Oui, c'est pas un spoil.
Alors, à cette époque-là, il s'est rapproché d'un jeune cardinal qui s'appelle Jules Mazarin. Ils deviennent assez proches parce que Jules Mazarin lui ressemble pas mal de caractère. Et donc, le cardinal de Richelieu va le coucher dans son testament en disant ce serait bien qu'il reprenne le pouvoir. Et effectivement, Mazarin va être choisi directement juste après la mort de Richelieu par Louis XIII comme ministre principal.
Ah, mais c'est une copinage, encore.
Et Louis XIII meurt très très peu de temps plus tard. Je ne saurais plus vous dire combien de temps, mais je crois que ça se joue en mois.
Bah, en même temps, il tousse un peu. Donc.
C'est ça, ils se suivent et donc Mazarin, le cardinal Mazarin va être le nouveau premier ministre principal en tout cas, et ça va à nouveau, on va à nouveau être sur un binôme d'un roi beaucoup plus jeune avec un homme d'église expérimenté qui va tenir le royaume du main de fer. Et je pense que je vous ferai prochainement un sujet sur Mazarin et sur la Fronde parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà.
Trop bien. Bah merci beaucoup, cool, super clair. Ça m'a beaucoup fait penser à un jeu, parce que je suis très joué en ce moment, c'est Crusader Kings, je crois. Un jeu de gestion très politique. C'est-à-dire que vous allez gérer un baron, un duc, ce que vous voulez. Et en fait, vous allez devoir après gérer votre lignée, etc. C'est-à-dire que si vous mourrez, votre partie ne finit pas si vous avez réussi à faire un enfant, par exemple, un garçon. Mais donc, vous allez gérer plein de choses, votre duché, votre comté, potentiellement essayer de devenir roi, faire des alliances, faire des mariages.
C'est génial.
Extrêmement complexe. C'est vraiment d'une complexité folle. mais il peut se passer des trucs fous aussi. Donc ouais, tu fais des alliances en essayant de marier ton frère au Habsbourg au machin au truc, et non. C'est fou, mais ça fait tourner la tête tellement c'est complexe.
Mais ça c'est passionnant, et ça au final Richelieu il a pas tant fait de faire des alliances par mariage.
Bah, il avait l'air assez fort de lui-même.
Mais Mazarin l'a fait. Mazarin, une fois qu'il était bien établi, il avait mais genre 30 nièces en Italie. Il a ramené toutes ses nièces et il les a toutes mariées avec des gentilshommes français. Et même Louis XIV, son premier amour, c'était Marie Mancini, et c'était la nièce de Mazarin, et il a voulu l'épouser, et il est passé à ça d'épouser Louis XIV.
Ouais, elle a fait donc, un truc très petit avec ses doigts.
Non, mais c'est Mazarin qui a dit non, justement, c'est marrant. Voilà.
Il avait d'autres ambitions.
Absolument.
Et le rouge de la tenue de Richelieu ?
C'est la tenue des cardinaux. Ouais.
D'accord, ils étaient tous habillés en rouge. Ouais. D'accord, excusez mon inculture.
Non, mais pas du tout, non.
Eh bah tiens... Tu fais bien de parler puisque c'est toi qui vas parler.
Tu fais bien de l'ouvrir.
Étale ta culture.
Eh ouais, non, mais moi j'ai pas de culture. Alors j'ai pas de culture. Enfin, je vais vous parler d'un sujet qui est à la fois charmant. Ah non, il y a un jingle d'abord.
Exactement. Ouais.
Excuse-moi, je t'avais totalement oublié.
Surtout, ne bouge pas.
Je vais réfléchir un peu encore.
Il va la fermer sa gueule. Pas bouger.
C'est Camille qui a fait le jingle ?
Oui,
d'accord.
Peut-être.
Ok, je peux comprendre quand même. Donc je vais vous parler d'un sujet qui est qui peut être une chance, qui peut être une malchance. En tout cas, c'est un trouble psychiatrique, même si ça fait un petit peu peur comme ça. Il appartient à la même famille que les troubles borderline, les troubles bipolaires, les troubles anxieux. Il est dans la même famille aussi que les autistes Asperger. Alors, je vais en parler avec sûrement peut-être que dans tous les exposés, dans l'exposé que je ferai, il y aura sans doute quelques erreurs. Je ne suis pas médecin et par contre, je suis... je suis très intéressé par ce trouble puisque mon petit garçon en a hérité, donc il en a hérité dans tous les sens du terme. Et je pensais tout à l'heure à Elias qui me disait, qui parlait des jeux vidéo. Voilà,
oui,
voilà un des gros symptômes puisque le TDAH est complètement addict à la récompense immédiate que donne le jeu vidéo. Je réussis, je fais une autre chose, etc. TDAH, donc c'est trouble dysfonctionnel de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Je vais vous donner tout à l'heure quelques éléments puisque pour être détecté, pour être sûr qu'on a un trouble TDAH, la route est longue. D'abord, on a des soupçons et puis je vais vous donner les critères tout à l'heure et vous pourrez voir si vous êtes dans ce cas-là ou pas. Il faut que ce trouble ait des répercussions sur la vie sociale. Il faut que ce trouble ait des répercussions sur la vie professionnelle ou la vie scolaire pour les enfants. Au niveau du nombre de personnes qui sont atteintes, on pense que c'est entre 4 et 8% des enfants. Et je vous expliquerai aussi pourquoi.
En France ou mondialement ?
Mondialement. Il n'y a aucun lien avec une société moderne ou une société...
D'accord, okay.
Voilà. C'est entre 4 et 8% partout dans le monde. La différence qu'il peut y avoir entre certains pays et entre certains pays dits développés et d'autres non développés, c'est que l'attention portée à ce trouble, elle n'existe pas dans certains pays. Mmh. Je pense que si vous allez en Birmanie, a priori, le taux de TDAH... D'ailleurs, le taux d'autres maladies psychiques
pour avoir
est
des
à zéro.
C'est qu'il faut détecter, en fait. Il y a une capacité de détection.
Voilà, absolument.
Nécessaire.
Et puis après, il y a une projection en expliquant, en se disant, voilà, peut-être que ça arrive jusqu'ici.
Mais puis au-delà de ça, je pense que même en France, tu as beaucoup de gens qui pensent que TDAH, c'est pas une maladie. Oui, c'est la nouvelle mode pour dire à ton enfant, alors qu'en fait, il est mal éduqué. Mmh.
Ouais,
moi, j'ai entendu plein de gens toujours dire ça. Mmh. Oh, c'est le nouveau.
Le TDAH, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. C'est, on peut le comparer, si on le fait en soft, on peut comparer à une langue étrangère. Peu parler et une vraie difficulté d'expression de la personne qui, si personne ne la comprend, c'est difficile de transmettre les choses. Si, quand on vous parle, vous ne comprenez pas, c'est difficile aussi de vivre. Mmh. Et ça met des gens avec les différents symptômes, les différents handicaps qu'ils possèdent sur ça, dans une cage. Et puis, c'est là où se déclenche la souffrance.
Ouais.
Si vous faites faire des choses, si vous demandez à un poisson rouge de grimper à un arbre, effectivement, il y a de grandes chances qu'il soit dans la souffrance. Et c'était pas ça le point commun avec le poisson rouge. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, vous avez en France, a priori, enfin en France, dans le monde, on estime qu'il y a 5 garçons pour une fille TDAH. Mais quand on se penche un peu sur les études qui sont faites, eh ben on estime que ça doit être 50-50. Mais la seule chose, c'est que l'expression du TDAH chez les garçons, elle est plus bougeante, elle est plus dérangeante par rapport aux autres, alors que une fille va être plus discrète, plus enfermée entre guillemets.
Il y a un potentiel poids social sur l'expression.
Voilà, plus discrète, rêveuse, etc. Donc on estime que sans doute, eh bien il y a autant de filles que de garçons. Pour un TDAH, c'est un trouble qui dure toute la vie. Donc, il y a obligatoirement une persistance, même si elle est plus visible à certaines périodes, en fonction de ce que vit la personne. Mais c'est quelque chose qui existe toute la vie. Et c'est seulement les contraintes de la vie qui font disparaître les symptômes du TDAH dans le temps. Il faut donc, je vous l'ai dit, qu'il fallait un impact dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle. Et c'est surtout parfois un handicap. Mmh. Alors quand je suis devant quelqu'un qui comprend pas trop et qui n'essaye pas de comprendre ce que peuvent vivre ces gens-là, les gens qui sont atteints de ça, ce qui n'est pas totalement grave et ce qui peut être aussi une chance, et c'est comme ça que moi je l'ai pris. Et quand je dis voilà, je perds mes clés, qu'il me dit ah oui moi aussi je perds mes clés, alors je lui dis mais si je t'avais dit qu'à la suite de mon cancer et de ma chimiothérapie j'avais mal au cœur, tu m'aurais dit moi aussi j'ai mal au cœur. Et voilà,
il peut-être. Faut.
Oui peut-être, mais donc il faut absolument. Bien écouter ces gens-là parce qu'ils vivent parfois dans une profonde solitude et un vrai enfermement dû à un certain nombre d'handicaps. Donc on a parlé des troubles de la personnalité borderline, des troubles bipolaires, anxieux, etc. Et c'est un peu de la même famille. Ça peut déclencher beaucoup de choses, notamment il y a plus de risques de suicide, plus de risques d'addiction à l'alcool, à la drogue. Puisque le TDAH est vraiment à une addiction totale à la récompense immédiate. Il a beaucoup de mal, les enfants TDAH, quand vous leur dites, je sais pas, travaille bien, tu vas avoir un beau métier, c'est impossible pour eux de se projeter, oui. Même à un mois, deux mois, trois
c'est
mois.
C'est trop éloigné.
C'est pas possible. Je veux dire, déjà dans la journée, c'est difficile. Donc, voilà.
Parce que tu as aussi circuit de récompense court, égal, enfin, tout ce qui est lié à. Enfin, aux substances psychoactives, aux jeux, etc. C'est parce que justement, il y a un circuit de récompense qui est court et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont addictes aux jeux. C'est pas parce qu'ils aiment bien mettre un billet sur Canasson du désert. C'est parce qu'il y a un engouement qui va être très très rapide, très direct.
Je sens qu'on va beaucoup parler de Canasson du désert. Enfin.
Pardon, je sais pas pourquoi ça reste.
C'est une soirée cheval, quoi.
Alors, on a dit entre 4 et 8%, entre 4 et 8% d'enfants et environ. Environ la moitié d'adultes. Alors, il y a 9 critères qui définissent les troubles de l'attention. Il y a 9 critères qui décrivent les troubles de l'hyperactivité. Et voilà. Et pour pouvoir avoir une suspicion de TDAH, il faut bien sûr le handicap, la persistance, l'impact sur la vie sociale ou professionnelle ou scolaire, et avoir combien, d'après vous, sur les 9? Vous savez pas.
5 ?
8 ?
Eh bien, très bien, Camille, c'est 5 pour les adultes et 6 pour les enfants. Alors, on va commencer par les troubles qui sont liés à l'attention. Alors, d'abord, la première chose, c'est une difficulté à prêter attention à des détails, à des consignes. Notamment, la spécialité des TDAH, c'est de se jeter sur une armoire IKEA, de tout monter en regardant de loin le mode d'emploi et de rester interrogatif avec les 3 vis qui restent à la fin du montage de l'armoire.
Il y a les 3 vis et 4 planches.
Voilà. Et alors donc c'est pour chacune de ces symptômes, pour chacun de ces symptômes, en fait, le cerveau, s'il ne sait pas, adopte ce qu'on appelle des stratégies de coping qui vont permettre de faire face à tous ces handicaps. Alors il le fait d'une manière inconsciente. Et puis la personne qui prend conscience ou les parents qui prennent conscience de ce trouble chez un enfant, et ben là ils vont adopter un certain nombre de méthodes que je vous donnerai à la fin, puisqu'il y a en gros trois méthodes principales sur lesquelles il faut travailler pour pouvoir aider les gens qui ont ça.
Alors si je peux me permettre une toute petite traduction, stratégie de coping, c'est de l'anglais.
Stratégie de coping, oui.
C'est de la résilience, du vivre avec, on va dire.
Comment faire face.
Ouais, voilà.
Voilà, faire face. Difficulté à soutenir son attention sur des tâches et activités, alors des activités qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Alors chez les adultes, ça va être les impôts, ça va être même jouer avec des enfants s'il n'y a pas passer du temps à jouer avec son enfant.
S'il n'y a pas ton enfant préféré.
Même pas s'il n'y a pas ton enfant préféré, mais le TDAH, s'il joue, il veut gagner. D'abord, ça, c'est la première chose, parce que ça lui provoque des émotions. Ou alors, il veut perdre, parce que ça va faire exploser son enfant de joie, il va pleurer de joie, etc. En tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose. Une partie de Uno qui dure des heures, a priori, ça ne lui convient pas. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, il va pouvoir être totalement en extrême, en hyper-focalisation, sur des choses qui vont le passionner. Et là, vous pouvez plus le détacher de quelque chose qui va le passionner. Il va plus sortir de ce truc-là. Et c'est là où on voit les ordinateurs et les écrans. Effectivement, ça, là, on est en hyper-focalisation. Et c'est parce que ça le rassure et ça lui plaît et c'est une récompense. Troisième critère, il semble ne pas écouter quand on lui parle.
On s'en visait, c'est très désagréable.
Voilà. Et souvent, je pense que si, pour poser la question, il faut s'attarder vers les proches, et, les gens qui travaillent avec lui ou sa famille, et dire est-ce qu'il vous écoute quand vous parlez ? Parce que généralement, là aussi, si c'est passionnant, il écoute, mais ça ne dure pas longtemps. Et parfois, parfois ça dérape et c'est mal vécu par les personnes autour. La quatrième chose, ne pas se conformer aux consignes. C'est-à-dire, il y a des consignes et il y a toujours des solutions qui peuvent contourner les consignes ou qui peuvent faire que la personne est imaginative et va vous proposer autre chose que les consignes qui lui sont exposées. Donc, on ne se conforme pas aux consignes.
C'est pour ça quand j'essayais de faire de la bière.
Et la cinquième chose, ce sont des gens qui évitent les tâches qui nécessitent des efforts soutenus au long terme. Donc là, on en a parlé pour les enfants. Faire des projets pour entreprendre des études pour
avoir. Pense à ton doctorat. J'ai 8 ans. Voilà. Enfin...
Ça, c'est totalement impossible. Chez les enfants, c'est beaucoup plus court. Et il faut trouver des stratégies, là aussi encore des stratégies de coping qui permettent de récompenser tout le temps. Alors si on apprend un instrument de musique, il y a tous les morceaux préférés et là on arrive peut-être à tirer quelqu'un, mais c'est...
Identifier des étapes qui vont permettre d'amener de la récompense sans penser uniquement au but final. Il y a des enfants de 8 ans qui rêvent d'être médecins toute leur vie et d'autres où il faut leur montrer les petites étapes intermédiaires qui font que ça va être cool et que c'est pas juste t'inquiète pas, dans 16 ans tu seras content.
Oui. Absolument. Plutôt. Sixième, du mal à s'organiser. Alors, quand on est enfant, c'est difficile. Et puis, quand on est adulte, du mal à s'organiser. On peut dire que, généralement, dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, les stratégies de coping, c'est simple. Hein, c'est s'entourer de gens qui savent s'organiser.
stratégie d'esquiving, ça, principalement.
Le 7, il perd souvent les objets nécessaires à son travail et à ses activités. Là aussi, il y a des méthodes. Huit, à des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Alors généralement, c'est tous les trucs chiants. Hein. C'est les corvées, les courses, rappeler au téléphone. La grande spécialité, c'est dire téléphone, maman téléphone. Allô maman, oui, écoute, je suis au téléphone avec quelqu'un d'autre, je te rappelle dans 5 minutes. Et au bout de 15 jours, votre mère vous fait une crise parce que vous ne l'avez jamais rappelé, elle qui attendait le téléphone. Ça te parle, Elias ?
Oui, mais moi, si je peux me permettre, je lui dis, tu aurais pu me rappeler. Voilà, plutôt que d'attendre de bouder pendant 2 semaines. Mais je t'aime, maman, parce qu'elle écoute. Donc,
Alors, j'ai été vachement interpellé par toujours ce truc-là, 8, parce que les TDAH sont des gens qui sont tout le temps en retard, qui oublient pas mal de rendez-vous, donc c'est pour ça qu'ils les notent, mais ils sont toujours en retard. Et puis, j'écoutais un professeur qui parlait justement de cette chose-là, un professeur qui s'appelle Nader Perrou, voilà, et il dit « Attention, stratégie de coping ». Ce sont les maboules du retard et ceux qui arrivent toujours super en avance ou qui développent des mécaniques totalement de psychopathes par rapport au retard. Donc je sais pas si, enfin bon bref,
mais on en parlait
un peu avant l'enregistrement, tu disais que c'était un spectre un peu comme le spectre autistique, on n'est pas juste autiste et tous les autistes sont pareils, donc effectivement j'imagine qu'il y a différents niveaux pour différents points du spectre TDAH et que comme tu disais avec les stratégies de coping en fait c'est de l'adaptation. Donc vous pouvez voir quelqu'un dans la vie de tous les jours qui peut être ultra organisé mais qui va être ultra organisé parce que cette personne sait qu'elle va tout oublier, donc pour ne pas oublier, etc.
Et alors, dans les éléments qui gênent justement la détection du TDAH, il y a effectivement les gens qui sont aussi HP-HPI, qui ont un cerveau qui fonctionne bien et qui instinctivement va trouver des stratégies de coping tout seul. Et ces gens-là peuvent vivre toute leur vie avec un TDAH et qui sera masqué par...
Bon, après, il n'y a pas besoin d'être HPI pour acheter un porte-clé. Quoi.
Non, il n'y a pas besoin. Mais si connaître un HPI, c'est mieux.
C'est et puis, je m'en veux beaucoup pour ça. Ah,
et puis, ce sera retenu, ça.
C'était bien long. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des stratégies super intelligentes, mais il y en a aussi qui sont des trucs bêtes, mais mettre les choses toujours au même endroit, etc. Alors, on peut vivre avec ça sans être un
et... Et le neuvième point de l'attention, c'est la distractabilité.
Ouais.
Distractabilité, excuse-moi, j'ai un problème
d'attention. Non, je ne sais pas, je dis ça au pif. Hein,
ouais, non, mais absolument, c'est-à-dire que généralement, alors les stratégies de coping là aussi, c'est de travailler dans la solitude tôt le matin ou tard le soir. Mais la distractibilité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puisque c'est comme si vous avez un radar dans la tête qui est sans arrêt en train de détecter tout. Et étant donné que vous avez un esprit en arborescence qui rebondit sur chacun des mots, je regarde la chaise me fait penser à une table, me fait penser à un dîner entre amis, me fait penser au réveillon, me fait penser que j'ai pas acheté de cadeau, me fait penser que j'ai pas d'argent, etc. C'est un truc sans fin. Et en fait, c'est ce moteur est là en permanence, il vous empêche. Et pour pouvoir vous reposer, vous êtes obligé de soumettre l'esprit à quelque chose de plus fort, comme la radio, comme faites entrer l'accusé que tout le temps, voilà, qui vous permet d'avoir une histoire et qui vous fait oublier les choses.
Friends. Ou Julien Courbet le matin.
Friends,
ou Julien Courbet le matin. En tout cas, quelque chose et pas de la musique, musique, c'est pas suffisamment occupant. Alors, vous pouvez aussi avoir un bruit de fond. Des fois, il y a des gens qui, pour pouvoir rester concentrés, mettent un bruit de fond, mais c'est un bruit de fond de mer, d'avion, de rue, etc.
Mais c'est aussi pour ça que souvent les certaines personnes atteintes d'hyperactivité, enfin de troubles d'hyperactivité, vont te dire quelque chose alors que toi t'arrives pas forcément à faire le lien, mais parce que eux, dans leur tête, ouais. tac, et tu te dis mais ça n'a aucun rapport, et en fait il y a tout un tas de liens que...
Ouais, c'est une façon différente d'organiser ses pensées, ses connaissances, etc.
Ouais, c'est vrai.
Et tu citais, Axel, la pensée en arborescence, etc. Et il y a un truc que je trouve vachement intéressant, c'est l'interaction entre le côté culturel, social, sociétal, etc. Et c'est un fonctionnement de cerveau particulier, de ce que j'en comprends, mais qui en plus doit s'intégrer dans toutes ces différentes couches sociales, culturelles, etc., qui sont en fait pas innées. Tout ça, c'est, pour n'importe qui, c'est de l'acquis, donc on apprend ça parce qu'on vit dans une société, mais voilà, tout le monde a différentes façons d'absorber ça.
Et la problématique, c'est que dans notre vie, on a des aiguillages, et qu'il y a certains aiguillages qui ne peuvent pas convenir et qui envoient droit ces gens-là vers de la souffrance. Et on va en parler juste dans l'orientation, on peut en parler tout de suite, mais quelqu'un qui va avoir des difficultés d'attention, de la distractibilité, etc., c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir faire d'études. Moi, je n'ai pas fait d'études.
Ouais, il ne faut pas faire notaire dans ces cas-là. Quoi.
Mais qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes en échec scolaire, quand vous êtes en troisième en échec scolaire? Eh ben, on fait un BEP, et on fait un BEP plomberie, on fait un BEP menuiserie, on fait un CAP de comptable ou n'importe quoi, en tout cas des petits travaux qui sont très répétitifs. Enfin, en gros, on envoie les gens vers des choses qui, de toute façon, ne peuvent pas les réaliser. Donc, ils seront de toute façon mauvais. Dans ces choses-là, ils vont quitter leur emploi et malheureux. Ah. Et ils vont quitter leur emploi une fois, deux fois, trois fois, etc. Et c'est un puits sans fin parce que, de toute façon, après, pour eux, y a la sortie est difficile. Et c'est là où on retrouve des gens qui entament des dépressions, l'alcool, machin, etc. Enfin, ça peut devenir dramatique. Et moi qui fréquente des groupes de parole par visio, etc., qui sont des gens qui échangent, j'ai été sidéré et assez seul de voir. Enfin, je ne voyais que des gens qui avaient une souffrance absolument incroyable et que même d'ailleurs l'animateur du groupe plusieurs fois où j'ai été, même lui formulait les questions d'une manière assez négative, donc avec une vision assez négative. Par exemple, il demandait à quelqu'un, il lui disait, mais explique aux autres combien de fois tu es tombé etc. Et moi, je me suis permis d'intervenir, mais je lui dis, mais tu peux pas poser cette question-là.
Oui, c'est
tu dis combien
est-ce,
de fois.
Est-ce que tu peux mettre le couteau dans la plaie un petit peu et remuer?
Je lui ai dit, combien de fois tu t'es relevé? Explique aux autres combien de fois tu t'es relevé. Mmh. Et il y avait un chef de projet dans l'informatique, je sais que tu bosses dans l'informatique, qui était, parce qu'on parlera, il y a beaucoup de qualités, de points positifs. Et il avait un truc dramatique. Et je lui pose juste une question. Je lui fais, mais attends, dans la boîte, quand il y a vraiment des problèmes, à qui on fait appel? Il finit par me dire à moi. Je fais, ok. Et dans la boîte, quand c'est vraiment le bordel, quand il y a une urgence, quand ils sont tous sous l'eau, qu'ils sont tous en train de pleurer leur mère, à qui on fait appel?
Et l'autre, il dit. Tu dire que t'as fait un putsch dans le groupe de parole.
Et l'autre, il dit, à moi aussi. Je fais, putain, mais alors? Mais
alors, c'est qui le champion?
C'est la fête. Voilà. C'est la fête. Et finalement, oui. Alors derrière sa femme, par contre. Elle vit pas les choses de la même façon. Elle en a rien à foutre qu'au boulot, ça soit le premier. Mmh. Mais la seule chose, c'est que derrière, elle récupère ses clés. Ça fait trois fois qu'elle achète les lunettes, etc., etc. Mmh. Il descend jamais les poubelles, il oublie corvée, même s'il a une bonne volonté, etc. L'hyperactivité, parce que le temps tourne, donc et Elias, il commence à me faire les gros yeux. Non, c'est Hicham.
C'est fou.
J'ai rien dit.
Alors là on va passer aux troubles d'hyperactivité. Alors la première des choses, c'est remue les mains ou les pieds. Ça on le fait tous. Après quand c'est chronique, parce que tous ces défauts là, en fait, on les a pratiquement tous. Enfin, vous les avez tous. Mm-hmm. La seule chose, c'est que quand ils se répètent, jusqu'à devenir pathologique, jusqu'à provoquer des gènes dans la vie quotidienne,
c'est là où il
y a un problème. Mm-hmm. Mais n'envoyez pas des messages en disant « j'ai les mains qui bougent et je suis TDAH », il y a peu de chances que ce soit. Peut-être simplement, vous avez un eczéma sur la main qui vous gêne beaucoup et vous secouez la main tout le temps, mais ça n'a rien à voir.
Et puis par empathie, c'est comme, enfin, faut pas tomber dans le piège de regarder une série télé médicale et dire, oh mais j'ai les mêmes choses que ce patient. Voilà, peut-être que j'ai un cancer de l'épaule. Non, peut-être pas. Détends-toi.
Deuxième chose, quitte son siège dans toutes les situations possibles. Là, surtout à un moment où il doit être assis. Alors stratégie de coping. Où j'ai un coup de téléphone, je sors de la salle, etc. On est en réunion et puis là on invente plein de choses et puis généralement on est assez crédible. Cours ou grimpe partout, bon bah ça c'est généralement les enfants, mais la seule chose c'est que c'est chez les adultes aussi. Mais la seule chose c'est que l'adulte il peut pas faire ça ni dans la vie sociale ni dans le boulot.
Si tu cites l'escalade, je me barre.
Donc en fait, il se retrouve avec une sensation interne extrêmement désagréable et un bouillonnement intérieur qui est extrêmement dur et à maîtriser et à vivre. Là, vous êtes en dehors de la réunion. D'abord parce que vous n'avez pas l'attention nécessaire pour durer plus d'une demi-heure ou de trois quarts d'heure. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous commencez à bouillonner et c'est une gêne, quoi. C'est comme si vous aviez une nausée, que vous étiez obligé de rester à votre entretien alors que le mec vous pose des questions. C'est le boulot de votre vie, mais vous avez des nausées. Bah, c'est un peu pareil, c'est une vraie gêne.
Même si l'adulte peut, entre guillemets, moins le faire, ça se remarque. Moi, du coup, j'ai bossé avec quelqu'un qui était hyper hyper actif, avec qui j'ai fait des montages à l'orangerie, etc. Et qui tenait pas du tout en place, ça se ressent. C'est à se mettre presque parfois un petit peu en danger, tu vois, physiquement. Et je trouve que ça se ressent quand même.
Alors dans les TDAH, il faut, étant donné qu'il faut tout le temps des choses, tout le temps de l'émotion, tout le temps de la récompense, tout le temps de l'adrénaline, effectivement ça va toujours vite, effectivement c'est des risques souvent inconscients. Ça se ressent, mais je veux dire, quand vous êtes avec des gens comme ça dans leur environnement ou quand on les rencontre, il y a quelque chose de spécial. C'est-à-dire que on sent quelque chose, surtout chez les enfants. Chez les enfants, moi je sais que mon petit garçon, je pense pas qu'elle écoutera, mais une ex un jour a dit d'une manière très gentille, ton fils il est pas attachant. C'est assez monstrueux de la part de quelqu'un de dire
ça. J'ai cru qu'il y avait quelque chose de positif qui allait arriver après. Ouais, non, il a juste dit ça.
Non, juste dit ça. La seule chose, c'est que je savais pas pourquoi. Et je peux comprendre, mais j'ai compris après en le sachant, parce qu'il faut savoir que le TDAH, pour moi en tout cas, c'était détecté à 57 ans. Donc ça a donné des réponses à plein de choses dans ma vie qui m'ont fait souffrir. Je vais pas faire pleurer tout le monde. Normalement, pardon maman, c'est drôle, mais en tout cas.
Mais ça parle aussi de
Hicham, parce que Hicham il est toujours en train de chercher du son. Donc
c'est ta fête ce soir.
Voilà, et c'est vrai que parfois, étant donné qu'il y a un fonctionnement particulier, on ne sait pas le mec, la fille, etc., très sympathique, très gentil, etc., mais un fonctionnement particulier qui fait qu'on a de mal à rentrer en connexion. Voilà, ça peut arriver. Et maintenant, je le sais, et ça me permet de, pour mon petit garçon de d'apporter des solutions et de comprendre pas mal de situations. Quatrième chose, des difficultés à se tenir tranquille. Alors là, l'exemple, c'est... ça aussi, c'est un truc que j'ai jamais vécu, donc je l'ai compris quand on me l'a dit. Aller à la plage, c'est impossible. Mettre sa serviette, s'allonger sur la plage et bronzer, faire, ouais. Ça, c'est impossible. Et j'ai passé des vacances au bord de la mer, mais j'étais j'étais sur le balcon, j'étais en train de marcher, j'étais en train de faire des trucs, j'étais en train de regarder la télé, mais en tout cas, aller sur la plage et rien faire pendant 5 heures, c'est pas possible. Donc, s'il y en a un qui revient juste avec les mains et la tête bronzée et tout le reste blanc, bah, c'est moi. Alors, cinquième chose, c'est les gens qui sont souvent sur la brèche, qui sont perçus comme agités. Et difficile, je sais pas. Enfin, voilà. Donc agité, difficile, tout le temps sur la brèche, ça me parlait. Voilà, ils ont du mal à faire une seule chose à la fois. Et là encore, le plus facile, c'est de demander aux proches, à l'entourage professionnel et social. Sixième chose, il interrompt souvent. S'il est perturbateur, il peut paraître parfois dans ses interventions, quand c'est des interventions qui lui paraissent justes, parce que la notion de justice est extrêmement importante, ça peut paraître agressif puisque dans les interventions et ça peut un peu perturber et laisser pantois quelqu'un parce que l'intervention des fois, elle est totalement disproportionnée par rapport à ce qui se passe. Ok, j'ai juste dit à ton ami qu'elle avait mangé un bout de ma tablette de chocolat. Donc, surtout, s'il te plaît, stop, ce n'est pas grave. Voilà.
Et oui, tu peux couper les mains quand même. Enfin...
Voilà. Alors, la septième chose, c'était quelque chose aussi qui me fait rire, c'est que c'est souvent quelqu'un qui va laisser souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore posée. C'est-à-dire que le début de la question démarre, mais avant la fin de la question, et hop, il y a tout de suite la réponse. Parce que, même en parlant normalement, ça ne va jamais assez vite. Donc, je réponds à la question que j'ai compris au troisième mot.
Oui, voilà. Donc, la question qu'on te pose, tu vas y répondre avant qu'elle soit finie.
Absolument. Ça, c'est quelque chose aussi de très présent. Et puis, la neuvième chose, c'est que... voilà, on a du mal à attendre son tour. Alors dans les caricatures, voilà, c'est le mec qui va faire ou la fille qui va faire ses courses, son caddie est plein à craquer pour nourrir sa famille toute la semaine. Il arrive, il y a trois personnes à la caisse, dont une mamie qui cherche ses pièces et son ticket de réduction depuis déjà 5 minutes. Et le mec qui plante son caddie, qui se barre et qui dit bon bah on appellera Uber toute la semaine. Donc voilà. Donc je sais que j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais aller très très vite parce que je voudrais quand même.
Parce qu'on peut passer c'est partir sur la conclusion sans vouloir te presser.
Bon, très rapidement, vous l'avez compris, déficit d'attention, impulsivité, hyperactivité, hypoactivité aussi, puisque c'est généralement on-off. Mm-hmm. Hein, c'est aussi des gens qui sont dans le canapé à rien foutre, mais à moitié...
Par phase ou... Enfin, c'est-à-dire, est-ce que ça peut être une alternance des deux?
Ah, c'est une alternance, c'est une alternance des deux. C'est soit une hyperactivité... Voilà, soit une hyperactivité, soit parfois une hypoactivité.
Oui, pas les deux en même temps. Tu restes pas dans
ton canapé. Non, mais je veux dire, est-ce que du coup, c'est des personnes qui ont tendance. Tu vois ce que je veux dire?
Je pense que potentiellement, la phase hyperactive va être épuisante, ce qui va emmener dans une phase d'hypoactivité. Enfin, j'imagine, j'en sais.
Oui. Donc, problème d'organisation, etc. Enfin, il y a une liste de choses. Tapez les 20 choses négatives du TDA, je vous aurai une liste. Mais moi, je voudrais parler juste des choses positives. Donc, les TDAH, parce que, en fait, moi, il n'y a que ça que je lis. Voilà, les négatifs, je les connais et je les vis. Donc, la créativité, les TDAH sont des gens qui sont créatifs et qui font des choses. Et l'intuitivité, ils sont très intuitifs, ils sont curieux, rêveurs, imaginatifs, ouverture d'esprit. Ils sont spontanés, empathiques, enthousiastes, hyperactifs, donc dynamiques, extravertis, énergiques, audacieux, capacité à foncer. Ils ont une capacité aussi d'hyperfocalisation quand les sujets les passionnent et les intéressent. Ça va peut-être faire rire quelqu'un, ça. Ils sont performants quand arrive la date butoir, ils sont à l'aise dans le chaos. C'est-à-dire que plus c'est le bordel, plus on fait appel à eux et ils sont à l'aise face à un groupe, ils sont loyaux, ils ont le sens de la justice. Alors je sais pas pourquoi, parce que ça, indépendant, sensible aux autres, altruiste, tolérant, passionné.
Je pense que le côté modeste, ça veut potentiellement rejoindre un côté un peu terre-à-terre mais très factuel. Tu vois les choses telles que tu les as effectuées, mais parce que tu fais un lien très direct et je sais pas, j'imagine.
Peut-être. Adaptable, flexible, faculté d'improviser, capacité d'innover, visionnaire, besoin de défis. Désir artistique, loisir créatif. Et puis, moi, je sais que toute ma vie, on m'a répété une phrase que je détestais, dont j'ai horreur. Les gens qui écoutent ce podcast, non, c'était tu rebondis toujours. Et en fait, parfois, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on me tende la main, etc. Et j'entendais toujours cette phrase, tu rebondis toujours. Et quand j'ai découvert, je vous le rappelle, à 57 ans, que j'avais ce TDDH et que j'étais bonne cote, hein, et que quand je lis la liste et que je tombe sur capacité à rebondir, et ben,
fous de moi là.
Voilà. Et donc une vie variée et non conventionnelle. Maintenant, je vais vous parler juste pour finir des solutions parce que le TDAH, il faut l'exploiter. C'est une particularité. Hein, je veux dire, c'est comme un langage. Alors oui, si je parle que russe et que je suis dans un pays où on veut pas m'apprendre, on veut pas me comprendre et on veut pas m'écouter, c'est difficile, c'est une souffrance. Mais si je le sais, je peux côtoyer des Russes, je peux aller en Russie, etc., etc. Donc sur tout ça, il faut essayer de trouver la vie qui va avec vous. Moi, j'ai eu la chance à 15 ans, après des études scolaires bien sûr ratées, redoublé deux fois, une fois la cinquième, une fois la quatrième, j'ai découvert le cheval. C'est ça qui m'a porté. J'ai pu faire le show au milieu de ma carrière, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer les personnes, de monter dans les trains, etc. Et puis d'avancer et de faire toujours des métiers qui m'ont nourri en adrénaline. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a trois pistes, on peut dire. Il y a une première piste qui est une piste médicamenteuse. N'ayez pas peur de ça, les médicaments ça aide, tous les médicaments qui concernent le TDAH ne provoquent pas d'addiction, ce sont des médicaments qui agissent soit sur des courtes durées, en quelques heures, soit sur des durées moyennes, un peu plus d'heures, ou soit sur une journée complète, mais vous n'éprouvez pas de manque à part la capacité que vous avez pendant que vous faites ça de faire focus sur les choses, et c'est pour ça que chez les étudiants on rencontre beaucoup parfois de gens TDAH, qui ne se savent pas TDAH, parfois, qui prennent de la ritaline pour rester confrontés.
Dans ensuite, tout cas, on vous encourage à contacter un médecin et à parler à un médecin pour ça. Voilà, parce que pas d'automédication, toujours.
Absolument. De toute façon, c'est sous ordonnance et ne truandez pas là-dedans. C'est nul. Et je pense que voilà, la médication, c'est d'abord quand on a compris ce qu'on était, ce qu'on pouvait faire. Et voilà. Et si vous suspectez ça, si vous suspectez votre conjoint qui est vraiment infernal ou elle est infernale, elle bouge tout le temps, elle a 100 idées à la seconde, machin, etc., qu'elle est épuisante, et ben à ce moment-là, essayez de vous documenter. Et j'espère qu'on pourra mettre 3-4 liens sur le TDAH.
Bien sûr.
Le deuxième tiers, c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire que pour pouvoir contenir tous ces défauts, il faut dormir correctement, avoir un rythme de vie qui est bien séquencé et qui est, si possible, il n'y ait pas trop de variations. C'est-à-dire, voilà, donc essayer de manger sainement. Il y a des livres sur la nutrition du TDAH. Essayer beaucoup d'oméga 3, beaucoup de poissons, des choses comme ça, et éviter la caféine, éviter tout ça. Enfin, c'est tout ce que je fais pas. Mais voilà. Ça. Et le troisième tiers, ça s'adresse aux enfants et aux adultes. C'est l'organisation et les méthodes de vie. C'est-à-dire donner à vos enfants le 1, le 2, le 3. C'est vraiment, quand je me brosse les dents, c'est 1, je prends la brosse à dents, 2, je mets le dentifrice, etc. Et avoir des grosses horloges, des grosses horloges avec des objectifs, et puis très courts. Et quand vous leur faites faire leurs devoirs, ne vous énervez pas comme moi je le faisais avant, séquencer les devoirs. S'il y a 3 multiplications à faire, eh bien, on prend la première multiplication, on fait une pause entre les deux, en allant courir, en allant faire n'importe quoi, et on fait la troisième, et c'est pas grave. Une heure de devoir, ça vous prend 6 heures. Non, mais c'est mignon. C'est quand je dis à mon fils, tiens, 3 multiplications, tu fais la première, etc. Et je le vois partir super concentré sur la première. Je fais attention, hein, concentré. Il part à la première, et puis il fait 3 pas. Il fait, papa, deux... Non. D'accord. Il arrive et puis il lève les yeux au ciel et je vois bien qu'il y a un truc qui attire son regard. Il me voit et hop, il retourne à sa multiplication. Donc c'est drôle, c'est mignon, etc. Mais
c'est pour mignon eux, parce que t'es là pour l'accompagner, ouais, et pour l'aider. Sinon,
mais
c'est
pour aussi, je voudrais, et ça y est, je vais juste finir. Je veux pas régler mes comptes, mais mon fils était dans une école en CP et il y avait une maîtresse qui avait beaucoup de pédagogie et qui lui imposait des règles sociales pour contenir sa petite particularité, donc l'hyperactivité, le fait qu'il comprenait des fois plus vite que tout le monde parce qu'il est HP aussi, etc. Donc elle l'avait mis collé contre le tableau, collé contre le tableau. Toute la classe était dans son dos, quand même. Et la maîtresse avait un concept très bien de la position de la maîtresse par rapport aux élèves, c'est qu'elle était dans le dos de tous les élèves. C'est-à-dire que quand tout le monde travaillait, la maîtresse voyait tous les élèves, mais les élèves ne voyaient pas la maîtresse parce qu'ils étaient, elle était derrière.
Du coup, elle pouvait jouer aux jeux
donc
vidéo
Noé,
tranquille.
Absolument, je ne sais pas faire. Donc mon fils se tournait parfois. Mon fils se tournait parfois, effectivement, il était puni et forcément il bougeait. Aujourd'hui, on lui a mis des élastiques entre sa chaise, un coussin qui bouge, on lui a mis un paravent des fois quand il doit rester concentré. Mais là, il se faisait punir, il vivait très très mal. Et je me souviens, après avoir assuré pendant plusieurs rendez-vous à la maîtresse notre soutien total à l'école, à ses méthodes, etc. Un jour, on y a été, on lui a dit c'est pas possible, il a des haut-le-cœur quand il va à l'école, il crie, il pleure, il veut plus à l'école. Enfin, il nous tire des propos absolument incroyables. Merci Madame Paul, qui j'ai bon, dit son nom. Putain, tu feras un bip, s'il te plaît.
Non, vraiment, j'ai la flemme.
On mettra le bruit d'un canard.
Un bruit d'un canard, voilà, qui masquera le nom, mais pas l'école primaire de Bièvre. Et voilà. Non mais on explique tout ça, on explique cette souffrance de l'enfant, alors que nous, on savait pas du tout le TDAH, ça parlait pas du tout, et qu'on a eu comme réponse, mais vous savez, dans l'apprentissage, il faut de la souffrance.
Quoi ?
Ah, l'enfer.
Voilà.
Ah, c'est dégueulasse.
C'est la réponse qu'on a eue et que la réunion a commencé d'ailleurs quand elle est arrivée. Je me souviens très bien, elle avait jeté son écharpe et elle avait dit mais cette classe, c'est à vous de dégoûter de l'enseignement. On enchaîne là-dessus et voilà. Et le TDAH, c'est un truc vachement positif. En tout cas, moi, j'échangerais pas le mien contre deux barils d'un autre truc, même super bien. Donc, c'est une force aussi sur plein de gens. Il faut savoir la cultiver. Si vous parlez russe à tout le monde, allez que en Russie. Et ben, si vous avez été un TDAH, exploitez tous vos potentiels. Et, voilà, c'est bien. Et n'envoyez pas vos enfants à Bièvre.
Et sérieusement, c'est ta conclusion.
Ouais, bah du coup, je vais peut-être biper au moins le nom. Ouais. Mais non, en tout cas, merci beaucoup pour ce sujet trop trop cool.
Ouais.
Et on va
ouais,
bien évidemment te demander.
Des heures.
Ouais, bien évidemment te demander plein de liens parce que je pense que ça va être super intéressant de pouvoir fournir ça aux gens.
Ouais, surtout qu'il y a plein de choses. Vous tapez professeur Nader Pérou TDAH, ça c'est un truc génial. C'est génial. Il y a une chaîne sur le TDAH et sur toutes les maladies tous les troubles. Et j'ai du mal à dire troubles parce que en fait. En Amérique du Nord, là où ce trouble est traité depuis très longtemps et où on le connaît bien depuis très longtemps, en fait, ce sont même des profils qu'on recherche parfois dans du management de transition, dans la création de produits, pour du développement, etc. Ouais. Ils prennent des gens comme ça avec une énergie incroyable pour pouvoir faire ça alors que d'autres pourraient moins bien le faire. Une chaîne YouTube incroyable, le Food Normandie, un psychiatre qui parle que du TDAH chez les enfants, chez les adultes. Et puis voilà, et tombez pas chez des gens qui vont vous prendre du pognon parce que quand il y a des troubles qui sont peu gérés et il y a beaucoup de gens, parce que 8% de la population des enfants, entre 4 et 8, c'est énorme. 4 des adultes, c'est énorme aussi. Donc ne tombez pas dans des gens qui vous vendent des méthodes qui coûtent couilles.
Si vous nous écoutez depuis la France, avant tout, allez voir un médecin généraliste avant de. Moi, je donne vraiment les conseils à la con, mais un médecin généraliste avant d'aller voir tout spécialiste. Comme ça vous évitera de vous tromper. Et
absolument.
Ensuite, trouver le praticien ou la praticienne qui vous conviennent, qui vous convient, bref. Mais surtout, voilà, passez d'abord par quelqu'un qui va vous orienter, parce que ça évite effectivement de tomber dans des pièges qui ont l'air miraculeux, etc. Mais
d'abord, si vous suspectez ça, documentez-vous vraiment si ça apporte souvent, etc. On confirme. Ensuite, c'est obligatoirement un rendez-vous pour pouvoir être diagnostiqué d'une manière définitive, enfin être sûr. C'est un rendez-vous avec des tests qui sont des tests qui durent un peu longtemps, notamment. Vous n'avez qu'à taper DSM-5, vous allez trouver des informations. Ce sont des tests. Et ensuite, ces tests, ils sont confirmés par un examen clinique, un professionnel, un psychiatre notamment. Un psychiatre qui va... Et c'est à la suite de tout ça qu'on pourra envisager un traitement, voir ce qu'il y a. Et ne vous croyez pas tous TDAH. Ça n'existe pas non plus. Ce n'est pas la réalité. Mais par contre, si vous suspectez, il faut vous occuper de vous. Prenez soin de vous. C'est mieux, ça, on termine ça. Prenez soin de vous.
Voilà, très beau. Très, très beau, merci. Effectivement, le TDAH ne veut pas forcément dire traitement médicamenteux par la suite. Si vous êtes dans un côté très très léger du spectre, simplement des méthodes d'organisation peuvent vous aider, etc. Donc voilà, renseignez-vous. Et merci beaucoup parce que c'est aussi très chouette de le voir d'un côté positif et pédagogique, mais positif. Donc merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que ça aidera plein de gens.
Merci.
Et on va finir maintenant avec un sujet léger.
Ouf,
léger.
J'aurais pas utilisé ce mot.
Rien.
Tu sais ce que c'est le capitalisme? C'est enculer les gens.
Je dois vous avouer la vérité. J'ai des chocottes à la main.
Les chocottes. Les chocottes.
Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis?
Les Japonais.
Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi.
Très très beau jingle.
Good morning, mes chers passagers. It's your favorite Captain Spigen again. Ça, quel plaisir de vous retrouver à bord de ce Boeing 727 de la Japan Airlines en direction de Fukuoka. I am désolé about last time, une seconde d'avant. The Concorde a crash in garge l'exavier du pont des Ibanez, mais do not panic. Inch'Allah, we will have no problem, mis à part la future turbulence. Our flight will dure about le temps de la chronique. La température dehors is beaucoup trop froid, mais on s'en fout because on est inside the aeroplane. Please, keep your mask on the bush and on the way, sinon ça marche pas too much. Et on the part of Pardon Maman Airways, I vous souhaite un bon vol. Bisous.
C'était le capitaine Chouchou.
Magnifique.
Qui est de retour. Plaisir.
C'est bien, j'ai pas trop tranché à nettoyer le son derrière ça, ça va être parfait.
Donc, nous sommes... on vient de quitter Tokyo. On est au nord de l'île du Japon. C'est le 31 mars 1970. Pardon ?
L'archipel.
C'est la grosse île du Japon. Ouais. 31 mars 1970, on est à 31 000 pieds en altitude, donc 9500 mètres. À bord de la Japan Airlines, le vol 351, en direction de Fukuoka, comme l'a dit le capitaine Chouchou, qui est au sud de l'île.
Archipel.
De la grosse île. Aux commandes de l'avion, c'est bien évidemment pas le capitaine Chouchou, vous vous en doutez, c'est Ishida. C'est Ishida Shinji.
C'est pas loin, c'est pas mal.
Il a 47 ans.
Je pense que ses potes l'appelaient Ishishi. Pardon, désolé, je suis déconcentré.
Il a 47 ans, c'est un ancien officier de l'air qui a servi dans l'armée impériale. Il est aidé par Teishi Ezaki, le copilote, et Toshio Aira, le mécanicien de bord. Il y a 122 passagers, des touristes, des hommes d'affaires, des étudiants, des médecins en route vers une conférence et les 7 membres de l'équipage.
Tout ce qu'il faut pour le début d'un film catastrophe.
C'est ça.
Peut-être une petite femme enceinte dans le...
Mais il y a aussi des gens plus ou moins connus.
Alors oui et non, parce que si ces gens n'étaient pas là dans l'avion, ça aurait mal commencé aussi.
C'est vrai.
Mais il y a aussi donc des gens qui sont plus ou moins connus, dont Moriaki Wakabayashi, qui est un bassiste du groupe Hadaka Norarizu.
Ouais, donc plus ou moins.
Ouais, enfin, leur nom international, c'est un nom français, avec un mot inventé, les Rallyes dénudés. C'était un étudiant en socio. Ouais, non, c'est franchement ouais, super space ce mec-là. Donc, il a fait des études en socio et en français. Et donc, c'est un groupe universitaire, son groupe universitaire qui.
De la musique.
Voilà, et puis qui a fini par avoir un gros succès. À bord, il y avait aussi deux Américains, Herbert Brill. Rien à voir avec Manon Bril,
oui, mais...
qui est le co-directeur de Pepsi & Co. et un prêtre romain qui s'appelle Daniel McDonald. Rien à voir avec ça. À 7h35, 15 minutes après le décollage de l'avion, on est au-dessus du mont Fuji. Ding dong.
Au centre de l'archipel.
Le
c'est
signal...
totalement différent de Luçon.
Oui.
C'est un peu loin.
Le signal lumineux de la ceinture s'éteint. Un Japonais se lève de son siège pour prendre la parole. Il s'agit de Takamura Tamiya. Il a 27 ans, récemment diplômé de l'université de Doshida. Les mains en l'air. Ceci est un détournement d'avion.
Ouah !
Non, j'aimerais tellement pas que ça m'arrive.
Ah, en plus, tu prends l'avion demain, c'est ça ?
Oui.
Ouais, bah super.
Non, mais en direction d'un pays calme. Hein,
a priori, oui, tout à fait calme.
C'est ça, Camille ?
Oui.
Donc, les passagers, ils n'étaient pas si paniqués que ça, finalement, quand ils pensent, parce que... Bah,
tu ne vas pas courir en dehors de l'appareil, quoi.
Non, bah, surtout, c'est jamais arrivé.
Tu n'as pas le petit pic à glace pour briser le
non, mais honnêtement, regarde, tu as vu Squid Game ?
Ouais.
Vous voulez... Non, mais c'est le premier épisode.
On m'a tout raconté, tu peux y aller.
Non, mais...
Je compte pas le regarder. Qu'on enregistre.
Je compte pas le regarder non plus.
Non, mais en gros, il y a le tout premier jeu qu'ils font, c'est un 2-3 soleil. Donc oui, tout le monde, il est chaud patate. Et dès qu'ils apprennent qu'il y en a un qui va mourir, bah, ils sont beaucoup moins chaud patate. Ouais. Et ouais. La panique arrive.
C'est vrai.
Et là, surtout, bah, on est avant le 11 septembre 2001. Donc, un mec... Enfin, il n'y a pas de panique. Est-ce qu'ils sont inquiets ? Oui, mais il n'y a pas de panique.
Oh, le con.
Mais bon, la panique, elle finit par arriver au moment où Takamaro sort un sabre de samouraï.
Mais non.
C'était une autre époque. Ah ouais, c'est vrai que la sécurité, c'est pas la même. Ouais.
Mais il n'y avait pas de bagage X, quoi.
Non. C'était vraiment une autre époque. Et puis, surtout, il n'était pas seul. 8 autres étudiants se joignent à lui.
Ouais. Avec 8 sabres ?
Bah, ils avaient un peu tout. Ils avaient des bombes, des flingues. Voilà, c'est...
Des coupe-ongles.
Le plus jeune d'entre eux, donc Yoshihiro Shibata, il était encore au lycée, il n'avait que 16 ans. Et ils étaient tous armés, ils avaient tous des sabres, des flingues ou même des bombes artisanales. Donc, les étudiants, ils attachent tous les mecs.
C'était donc, en quelle année ça ?
1970.
Et en 1970, s'il y avait une bande de mecs qui arrivaient avec des sabres et des fusils, ils les laissaient monter dans l'avion sans crainte ?
Je crois qu'à l'époque, on fumait encore dans l'avion, donc...
Oui, mais enfin, entre la dangerosité de la cigarette et d'un sabre ou de flingue...
De ce que j'ai cru comprendre, ils les avaient cachés dans des tubes, mais personne n'a eu l'idée de rentrer dans... Enfin, de fouiller ça.
C'est bon, des tués à violence.
C'est comme si tu prenais un bus.
C'est vrai qu'il faut que ça bien que ça arrive une première fois avant que les gens se doutent que, OK, ça peut frauder. Tu peux comprendre.
C'est vrai.
Donc, les étudiants attachent tous les mecs, dont le mec de Pepsi, le prêtre, mais pas le bassiste. Le bassiste faisait partie du groupe des étudiants.
Il faisait partie de deux groupes, ouais.
Ouais. Et là, il y a 4 gars qui se dirigent vers le cockpit, ils essaient de défoncer la porte. Les pilotes contactent directement la tour de contrôle, mais les portes finissent par lâcher.
Il faut abattre l'avion.
Donc les pirates de l'air prennent le contrôle de l'avion. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ?
Des loopings ?
Non. Écrire « Maman, je t'aime » dans le ciel ?
Le plan, en fait, il est tout simple. C'est détourner l'avion pour aller en Corée du Nord.
Mais non.
Eh oui, c'est pas pour des vacances. Enfin, tu me diras, c'est pas vraiment une destination de vacances.
Bon, chacun ses plaisirs là où il veut.
Dans les années 70.
Mais c'était vraiment pour choquer le monde, pour rentrer en contact avec les révolutionnaires et avoir une vraie formation militaire. Alors qu'en vrai, ils auraient attendu quelques années, ils auraient reçu un appel pour les informer qu'ils disposent d'une formation intégralement prise en charge pour leurs droits CPF. Mais ils n'y ont pas vraiment pensé. Yes. Tout ça, c'était vraiment que pour être formé militairement et pouvoir lancer une guerre révolutionnaire une fois revenu au Japon.
Mais lancer la guerre révolutionnaire...
Dans le Japon, et... J'y arrive. Donc les étudiants faisaient partie du groupe, d'un groupe qu'on appelait l'Armée Rouge Japonaise. On est, pour situer un peu, juste après, enfin en pleine guerre du Vietnam, donc les impérialistes...
Il y avait du
mouvement. USA qui utilise plusieurs bases japonaises.
Ils ont fait la guerre, eux.
Ah bon, c'est pas.
C'est pas connu pour ça.
Et du coup, l'armée rouge japonaise est très influencée par le maoïsme. Donc en gros, on met de côté le marxisme et on insiste vraiment sur la révolution. Ils adoraient leur pays profondément même, mais c'était d'après eux. La seule solution pour fuir le système capitaliste. Leur but, c'était vraiment d'inspirer, d'inciter les autres pays asiatiques à se rebeller, à se soulever, un peu à l'image du printemps arabe.
Et à s'unir un peu, ouais.
Ouais. Ils voulaient être la braise qui déclenche le feu, la levure qui fait lever le gâteau, etc., etc. Et leur but ultime, c'était de lancer une révolution mondiale, et ils étaient prêts à le faire avec violence.
Tout ça en détournant un avion.
Non, pas. Il y a eu d'autres attentats avant, à Tokyo et à Osaka, au point où ils n'étaient pas loin d'une guerre civile. Même.
En tout cas, ils avaient des idées.
Ah oui.
Ouais. On avait eu plein. On verra
la volonté,
ça.
Ces petits jeunes, oui.
Dis-toi que juste avant cette affaire-là, l'ARJ, enfin je vais dire l'ARJ, ce sera plus simple, donc l'armée rouge japonaise, a essayé de kidnapper le premier ministre japonais. Donc voilà. Ils en sont capables. Donc le seul truc, c'est qu'ils avaient juste besoin d'un peu d'aide. Et vu la réputation du bon père Kim Il-sung, donc le grand-père de Kim Jong-un, c'est bien connu, ils ont le sens de l'accueil.
Ouais, bien sûr.
Tel fils, tel père, tel grand-père, quoi. De toute façon, c'est juste provisoire, parce qu'ils veulent surtout aller sur les terres de leur idole.
Mao ?
Non.
Ah,
Kim. Che Guevara !
Ah.
Ils veulent aller à Cuba.
Ah. Mais t'avais pas dit la Corée du Nord déjà ?
Oui, mais c'est juste une escale. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils voulaient aller directement à Cuba.
C'est juste à côté, j'étais là.
Non, justement, traverser tout le Pacifique, ils n'avaient pas pensé. Enfin, cette histoire, elle est encore un peu floue, vous allez le voir.
À 16 ans, il avait loupé des cours de géographie, donc...
Et du coup, enfin voilà, c'était le seul truc, c'est que c'était des petits étudiants inconnus du bataillon. Il fallait d'abord se présenter, se faire connaître dans le monde. Et quelle autre manière que celle-ci ? Du coup, il demande poliment au pilote, à l'aide de katana, mais poliment, de les emmener à Pyongyang. Et un tout petit léger problème. Fukuoka de Tokyo, c'est à 880 km à vol d'oiseau. Et Pyongyang, c'est à 1277 km.
Pas assez d'essence. Ah, pas assez de kérosène.
Exactement. Les étudiants, ils étaient un peu perdus, ils n'y avaient pas pensé. Donc, il faut trouver un plan B.
Sinon, ils auraient pris des jerrycans pour leur prise d'otage.
Il faut jeter des gens de l'avion.
Non, mais, les avions, ils sont remplis qu'avec la quantité nécessaire pour le trajet. Ils ne font pas le plan.
Planer.
Avec un Boeing 777, c'est peut-être risqué.
Et puis c'est lourd, enfin l'essence c'est lourd et c'est cher. C'est les pilotes qui calculent la quantité nécessaire en fonction du nombre de personnes à bord, de la météo. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et du coup, forcément, les étudiants ils y ont pas pensé. Mais surtout, ils pouvaient pas le vérifier.
Oui. Ah. Bah ils étaient pas bien préparés. Hein, faut avouer, désolé. Mais non. Pas d'internet à l'époque aussi.
Non, pas d'internet. Et puis quand tu fais des études de socio et de français.
Une jauge d'essence sur le.
Non.
C'est tellement drôle.
Du coup, les étudiants, ils acceptent ce que leur pilote leur dit. Ils font un arrêt au stand à Fukuoka. Ils ont quand même quelques conditions.
Quitter la destination de base.
Oui.
Vraiment, ils sont
pas beaucoup de tourisme. Le pire détournement d'avion de l'histoire. On détourne jusqu'à la destination.
Mais ils avaient quand même quelques conditions. Et du coup, donc, le ministre des Transports japonais...
Des sandwichs.
Exactement ce que j'allais dire.
Le ministre doit faire en sorte que tout le monde à bord s'en sorte en toute sécurité. Donc c'est Shinjiro Yamamura qui se charge de la négociation. À 9h du matin, l'avion atterrit à Fukuoka et est accueilli par une foule de journalistes qui ont eux aussi entendu parler de l'affaire. Rapidement, la police encercle l'avion. Ils se préparent éventuellement à lancer l'assaut, mais c'est impossible vu qu'il y a 129 passagers à bord. C'est les étudiants qui ont le bras de levier. Donc, autant dire que quand le ministre de Transport leur a demandé de relâcher tous les otages, Takamaro, il leur a fait une toute petite contre-proposition. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on fait exploser l'avion.
Ok. Encore, là, il aurait pu dire non, on va buter un avion,
otage.
Un otage toutes les 10 minutes. Pourquoi tout de suite faire péter l'avion, là ?
Mais parce que.
Il n'a pas la notion du spectacle,
mais
un peu.
Mais oui, c'est ça. La négociation.
Le suspense.
Ouais. Bon, en tout cas, après.
Il est un peu extrémiste, hein, parce que si j'ai bien compris, juste après avoir demandé des sandwichs, il demande de faire exploser l'avion.
Après, je condense, tu vois. La négociation en durée 5 heures. J'ai pas entendu la blague.
La fin justifie les moyens.
Ah, très bien.
Très bien.
Du coup, après 5 heures de négociation, ils se mettent d'accord. Les étudiants devront relâcher quelques passagers, compte de l'essence, pour pouvoir aller à leur nouvelle destination. Pyongyang.
Ça a augmenté le prix du kérosène.
Ouais, 1,66€ le litre, ça fait beaucoup.
Deux vierges et un vieillard.
Du coup, donc, ils relâchent 23 personnes, qui sont principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et là, les étudiants, ils sont prêts pour aller en Corée du Nord. Mais les pilotes, un peu moins.
Bah, tu étonnes. L'assurance me couvre pas, je suis désolé.
Ouais, et puis ils ont jamais été formés pour aller là-bas.
C'est pas dans la fiche de poste.
Oui, il faut savoir que.
Ils ont pas Waze. Ouais,
déjà, à l'époque, la Corée du Nord, c'était pas ouvert de ouf. Hein.
Oui.
Oh, mais Waze, tu prends une boussole. À l'audace, il faisait comment les pirates Christophe Colomb? Tu crois qu'il a mis Amérique dans Waze?
Peut-être que tu ne te souviens pas, mais je crois qu'il n'avait pas d'avion.
Ouais. Et puis surtout, il visait pas l'Inde.
C'est vrai. Tu te retrouves à Paris, mais c'est joli en fait. On nous a caché plein de trucs.
Donc, les employés de l'aéroport de Fukuoka donnent des coordonnées aux pilotes et avec quelques instructions en mode gardez votre gauche au cinquième nuage, tournez à droite. L'avion redécolle donc vers le nord-ouest, direction Pyongyang. Les pilotes essayent tant bien que mal de s'orienter en s'aidant de leur cours de géo. Et en tout cas, ils le savent. Dès qu'ils vont traverser la frontière coréenne dématérialisée. Ça va être chaud patate, frère.
Ouais.
Et le truc, c'est qu'ils ne savent même pas comment rentrer en contact avec les tours de contrôle, vu qu'il y a zéro accord diplomatique entre le Japon et la Corée du Nord.
Tu connais pas la fréquence, machin.
Non, y a rien.
Je pense qu'ils vont rentrer en contact avec des chasseurs sur les côtés, en mode...
Ils ont essayé, quand même. Ils ont essayé, ça n'a pas marché.
Ils sont tombés sur Koei, sur Énergie.
Mais t'imagines, le pilote, ça peut être pris comme une déclaration de guerre.
Bah ouais.
Ça peut créer un incident diplomatique majeur. Aucun avion n'a le droit de traverser la frontière... coréenne, c'est un peu
mais ça, vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui?
Oui, c'est toujours en anglais, enfin, ça s'appelle DMZ.
Mais ça fait une petite sommation quand même, ou ça tire?
Non, enfin, à l'époque, aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, à l'époque, ils pouvaient tirer, enfin, c'est vraiment, t'as pas le droit d'être là.
C'est... Ça fait et... pas avec un porte-voix, non, un mec qui va sur la montagne et qui dit bonjour, oui, le vrai, on vous voit, poussez-vous.
La Corée du Nord, c'est quand même pas très très grand. Faut vraiment pas avoir de bol pour passer au-dessus de la Corée du Nord dans un avion qui est plus équipé de... Tu vois
oui, oui.
Ouais, mais non, il n'y a pas...
Mais c'est vrai.
C'est un peu comme les chasseurs en France qui tirent sur tout ce qui bouge.
Faut vraiment pas avoir de bol non plus pour monter dans un avion où il y a quelqu'un qui veut détourner l'avion pour aller en Corée du Nord.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Bref, du coup, ils ont essayé, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Ils préviennent quand même les ravisseurs que bah, ça risque de faire boum, hein. Mais ils s'en battent les couilles, la révolution n'attend pas. Une bonne heure après le décollage, d'après leur estimation, ils rentreraient dans la zone coréenne dématérialisée. Ils entendent à la radio, en anglais avec un accent coréen bien prononcé, « This is Pyongyang, this is Pyongyang, respond, respond !» Les pilotes, ils tentent d'expliquer la situation à tour de contrôle. Oui, bonjour.
Captain, comment vous dire
ouais. C'est le vol 351. Il nous arrivait un truc de ouf. Vous n'allez pas trop nous croire. On était tranquillement en train de voler de Tokyo vers Fukuoka. On n'a même pas eu le temps de servir les jus de tomate que là, bam, t'as des étudiants qui débarquent, qui veulent nous emmener à Cuba. Voilà. Truc de dingue.
Et du coup, on est chez vous.
Du coup, à tour de contrôle, ils étaient en mode oh, chelou votre, votre histoire là. Mais bon, allez, posez-vous à l'aéroport de Mirim et puis on va discuter. Toujours pas rassurant. À 15h19, le vol de la Japan Airlines numéro 351 atterrit à l'est de Pyongyang. Ils sont accueillis par l'APC, donc l'armée populaire coréenne, la police, drapeau nord-coréen, des enfants qui chantent.
des corbeilles de fruits.
Sur les haut-parleurs, on entend « Vous êtes sur le sol de la République populaire démocratique de Corée dirigée par Kim Il-sung. Vous qui voulez combattre le système impérialiste japonais, bienvenue. » La suite au prochain épisode.
Suspense. Merci beaucoup.
Oh là là là.
Et franchement, écoutez, parce qu'un retournement de situation incroyable.
Moi, ça me chaufferait trop qu'en fait, ils ne soient pas au Corée du Nord.
T'imagines
Benvenuti à Roma. Pizza.
Ils ont enfin un gros prank en mode, tu sais, on te met 2-3 trucs en coréen, puis après, hop, c'est parti. Bon, en même temps, ils sont tellement pas préparés que ça passe. Donc, trop bien, trop cool.
Merci beaucoup.
Ça faisait longtemps, ça fait plaisir.
Ouais, génial. Et je trouve que j'adorais les sujets et voilà, l'histoire. On passe de l'histoire avec Richelieu jusqu'au détournement d'avion.
C'est vrai.
C'est ce qui caractérise, pardon, maman.
Exactement.
L'éclectisme. Mais voilà, en tout cas, comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous.
C'était si chouette ensemble,
c'était très très chouette. Et puis, dans tous les cas, comme on disait, on vous aime, on vous adore, on vous remercie pour votre soutien et pour tout ce que vous nous envoyez. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
C'est un détecteur de conneries.
Prenez soin les uns et les unes des autres. Et
maintenant,
à la prochaine.
Bisous.
En coyote.
Dis-nous conneries.
Salut. Je lui dis d'aller se faire enculer.
Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.